sûr de devoir remercier Louis de m'avoir confié cette rude tâche de conclure ces journées. Parce que c'est pas très facile comme exercice. Alors je dois prévenir que ce sera évidemment pas des conclusions, tout au plus un relevé des thèmes récurrents tels qu'ils me sont apparus au cours de ces deux journées. Ce qui veut dire aussi qu'il y a sans doute un parti pris dans ce que je vais dire, parce que voilà, ce sont aussi ce qui a retenu mon attention, pour différentes raisons que je suis incapable d'objectiver comme ça tout de suite. Alors il y en aura cinq réflexions, la dernière étant peut-être la plus personnelle. Voilà. La première, c'est une interrogation à laquelle je ne m'attendais pas vraiment, qui est celle sur le caractère socio-historique de la construction d'objets ou de l'opération construction d'objets. Il a été souvent question de phénomènes de génération quant à leur intérêt différencié par rapport à cette question de la construction d'objets. Un phénomène de génération, donc un écart entre des générations, une, la mienne, celle qui est venue à la sociologie avec le métier de sociologue, pour laquelle la construction d'objets était une sorte d'injonction obligatoire, mais peut-être aussi un peu mystérieuse. Voilà, c'est une chose qu'on avait intériorisée comme étant une chose importante, mais on ne savait pas forcément très bien ce qu'il s'agissait de faire. L'autre, des plus jeunes parmi vous, qui revendiquaient plutôt que le métier de sociologue, même si elle le connaissait aussi, la référence aux réponses de Pierre Bourdieu, qui constituait finalement une façon de prolonger la question de ou l'impératif de la construction d'objets, mais sur un mode sans doute un peu différent. J'y reviendrai dans un instant. Bien sûr, ce caractère d'opposition entre deux générations avec leurs deux fétiches, l'une et l'autre, est sans doute un peu caricatural. Sans doute faudrait-il revenir sur les raisons et les formes de ce phénomène, mais il ne me semble pas signifier rien du tout. C'est-à-dire qu'à la fois, il y a de la continuité entre ces deux générations, il n'y a pas eu de l'opposition, la question de la construction d'objets survit, mais peut-être pas exactement sur le même mode, et puis elle survit sans doute dans une partie de cette génération et pas sur toute la génération. Voilà. Bon. Il y a aussi le thème évoqué à ce propos de, après tout, qu'est-ce qu'on en sait, quoi. Il y a ce que les gens en disent, mais est-ce que les gens disent tout ce qu'ils font, on n'en sait rien, quoi. Bon, c'est plus compliqué, donc, que ce qu'on pourrait croire. C'est au fond un problème de sociologie des sociologues, ou d'histoire sociale des sociologues qu'on aborde à travers cette question. Je crois que l'idée qu'on pouvait voir initialement, qui est même peut-être pas totalement fausse, mais qui n'est que partiellement vraie, qui opposerait une génération théoriciste, si on veut, l'ancienne, à une génération très empiriste, la seconde, est sans doute caricaturale et trop simple, même si elle n'est pas tout à fait fausse. En tout cas, elle permet au moins de se poser la question, donc s'intéresser au changement du mode de génération des générations successives de sociologues, qui serait sans doute la clé de quelque chose qui permettrait d'élucider leur rapport différent à la question de la construction d'objets. Je vais y revenir dans un instant. Ce sera, j'en viens à un deuxième point, qui est un codicille à cette première question. C'est une chose dont on a discuté plusieurs fois. Parfois c'était explicite, parfois c'était implicite seulement, mais je crois présent. C'est le thème que la construction d'objets, c'est aussi, dans certains cas au moins, une opération de construction du sociologue. Bon. Une opération de construction du sociologue, alors ça ne se croit que c'est d'autant plus vrai que le choix d'objet, ce qu'on essaie de construire, est un objet autobiographique. Alors, c'est souvent, c'est pas du tout anecdotique, je crois, c'est une réflexion que je me suis très très souvent faite, comme directeur de thèse, de constater que 90% des choix d'objets de thèse étaient plus ou moins autobiographiques. Ça ne saute pas toujours aux yeux, mais si on creuse un peu, on trouve très vite l'autobiographie. Donc, de ce point de vue-là, s'il est vrai que ces objets, ces choix d'objets sont souvent autobiographiques, c'est dire aussi que objectiver son objet, en faire un objet de science, essayer de construire un point de vue scientifique sur cet objet, c'est aussi s'objectiver soi-même, c'est une opération finalement de réflexivité. Donc, se changer. On peut imaginer que ce regard réflexif sur son objet, donc aussi sur soi-même, parce qu'on fait partie de cet objet, c'est une façon de contribuer à se changer soi-même, ou de travailler, en tout cas, à se changer soi-même. de façon peut-être plus générale, d'ailleurs en dehors des choix autobiographiques, des choix autobiographiques d'objets, on peut sans doute aussi penser que l'opération réitérée au cours d'une longue vie de chercheur de construction d'objets, ça finit par laisser des traces. Des traces qui font partie peut-être de l'incorporation d'un, ce qu'on appelle un habitus sociologique. Bon, c'est une espèce de façon de regard sur le monde qui tend à, comment dire, à interroger les évidences, ou à interroger de façon un peu systématique le ça va de soi. Ça va pas dire aller jusqu'à la construction d'objets, mais je crois que c'est une posture proprement sociologique par rapport au monde que de mettre des guillemets partout, quoi, peut-être, voilà, ce qui est une façon, je crois, d'indiquer que, voilà, on a tendance, par une espèce de réflexe intériorisé, à ne pas prendre les choses comme allant de soi, voilà, c'est le minimum, peut-être. Voilà, c'est une autre façon de penser cette idée de construction d'objets comme aussi travail de construction du sociologue. Alors, le troisième point que j'ai retenu, c'est l'idée que la construction d'objets n'est pas, contrairement à ce qu'on pouvait le croire, et peut-être que le laissait penser le métier de sociologue, une espèce d'opération inaugurale de rupture, qui s'opère tout d'un coup, subitement, à travers une espèce d'illumination qui ferait que, voilà, bon, l'objet de sens commun est abandonné au profit d'une rupture avec le sens commun qui ferait jaillir, ou que ferait jaillir, ou bon, les deux en même temps, l'opération dite construction d'objets. Donc c'est pas ça, c'est pas comme ça que ça se passe. Voilà, c'est pas une opération inaugurale, c'est une opération qui prend du temps, qui se déroule tout au long de l'enquête, du travail. Donc ce qui veut dire aussi deux choses, je crois, c'est le caractère souvent évolutif de l'objet construit. Après tout, le premier objet qu'on construit, c'est pas forcément celui qui restera à la fin. C'est aussi la possibilité, peut-être aussi, de réitérer la construction d'objets théorique à propos d'un même objet empirique, par rapport à un même terrain empirique. En fait, un terrain empirique peut se prêter à différents types de construction d'objets. Tout ça pose une question quand même tout à fait essentielle, qui est celle du métier de sociologue, de ce que Bachelard appelait le sens du problème. Bon, où la question posée est de quoi ce cas est-il le cas, comme disait Manuel ce matin, quoi. Bon, comment est-ce qu'on s'y prend pour faire cette opération? Ça m'amène au quatrième point de mon exposé, parce qu'il me semble que le thème qui m'est apparu comme peut-être le plus instructif, en tout cas pour moi, de ces deux journées, c'est que par rapport à l'opération un peu mystérieuse dont je parlais tout à l'heure, telle qu'elle m'était apparue, moi aussi, dans le métier de sociologue, si je me souviens de mes premières lectures, émerveillées d'ailleurs, du métier de sociologue, que j'ai toujours considéré comme un très grand livre, mais sans doute d'autant plus quand j'étais jeune, quoi, bon, et que je débarquais, c'est que cette opération mystérieuse n'est pas si mystérieuse pour peu qu'on la regarde. C'est sans doute un bénéfice de la jeune génération, puis de ces journées, peut-être aussi, d'une certaine façon, que de montrer que cette opération, cette espèce d'opération intellectuelle qui apparaissait indiscutable, peut être discutée, on voit, me semble-t-il, se dégager à travers les expériences des uns et des autres qui ont été relatées pendant ces deux journées, une sorte de démarche transposable pour tout le monde de construction d'objets. Voilà, c'est après tout, c'est pas un acte inaugural mystérieux, c'est un ensemble d'opérations qui me semble comporter des volets récurrents qu'on retrouve dans bon nombre des exposés qui ont été faits ici. Quel que soit, je crois, l'objet empirique, on peut dire qu'on est confronté d'abord, alors je vais dire des choses banales, initialement des choses que vous savez, un objet dit de sens commun, avec là une question tout de suite, c'est au fait, est-ce qu'on sait vraiment ce que c'est que le sens commun? Moi je sais pas, je veux dire, voilà, c'est un objet, je crois, le sens commun, c'est un objet d'enquête. C'est-à-dire, quand on dit objet de sens commun, on dit une chose à la fois qui est tenue pour évidente, or, bon, qu'est-ce que c'est que ce sens commun? Je veux dire, sans enquête, bien malin qui va dire c'est quoi le sens commun, quoi, j'en sais rien, quoi, bon, ce que c'est que le sens commun, et si tant est qu'il y en ait un, d'ailleurs, parce qu'il serait réellement commun, c'est-à-dire qu'il serait unanimement partagé, etc. Bon, c'est aller un peu vite en besogne. Première remarque. Deuxième question, mais enfin, c'est une chose qui mérite qu'on la regarde, et donc qu'on s'interroge sur elle. Deuxième aspect, c'est que toute espèce d'objet, quel qu'il soit, est un objet de représentation savante. Bon, c'est très rare qu'il ne soit pas, je crois, qu'un objet empirique donné ne soit pas déjà l'objet de représentations savantes. Bon, ce qui veut dire que c'est des objets qui, d'une certaine façon, sont déjà théoriquement construits avant qu'on arrive, qu'on n'est pas le premier, il y a des gens qui sont passés avant et qui ont déjà fait quelque chose, quoi. Bon. Alors, on peut dire qu'ils ont été bien construits, Bon, qu'ils ont été mal construits, qu'ils ont été construits de façon brinque-ballante, bon, voilà, que beaucoup reste à faire. Donc, voilà. Mais en tout cas, il n'y a pas rien, quoi. Voilà. C'est très rare d'arriver sur un terrain vierge. Bon, voilà. Donc, je pense que je vais revenir dans un instant. C'est une première chose, une deuxième chose qui me semble importante. Le troisième mode de pré-construction très très fréquente, c'est celui que signalait Vincent hier. C'est les pré-constructions étatiques, en quelque sorte. C'est aussi bien rare. Alors, c'est pas le cas toujours. Mais dans bien des cas, voilà, ces objets sont non seulement l'objet de construction, enfin de vision commune, sens commun, non seulement l'objet de préconstruction sociologique, savante de différentes disciplines aussi, accessoirement. Hein, aussi, il n'y a pas que la sociologie, après tout, il y a des objets qui sont saisis par différentes disciplines, et aussi l'objet de représentation étatique, c'est-à-dire qu'ils sont en quelque sorte institutionnellement, juridiquement souvent construits. Alors, si on tire les conséquences de ce que je viens de dire là, alors ça indique quelque chose comme une méthode, après tout. Voilà, quelque chose comme une méthode de construction d'objets qui est celle, je crois, de beaucoup d'entre nous, d'entre vous. On peut enquêter sur ces différents types de pré-construction. On peut enquêter, voilà. C'est une manière, je crois, de construire cet objet que d'enquêter sur ces pré-constructions, qu'elles soient des constructions de sens commun, mais surtout, bien souvent, il me semble, en tout cas par rapport à ce que j'ai entendu, enquêter sur ces préconstructions savantes, c'est au fond réhabiliter en quelque sorte une opération académique routinisée, l'état de la question, souvent à périr d'ennui quand elle est un espèce de catalogue non réfléchi de ce qui s'est dit, de ce qui s'est fait, bon, etc., mais qui peut être réellement une opération de construction d'objets, je crois, pour peu qu'on s'interroge sur l'espace de construction, l'espace de ces préconstructions savantes, l'histoire et oui, la diversité sociale correspondant à des positions sociales de ces préconstructions savantes. De la même façon, on peut s'interroger, quand elles existent, sur le traitement juridique, le traitement institutionnel, quand il existe, de ces questions telles qu'il s'est historiquement constitué. Et je crois que... enfin, on peut d'ailleurs, enfin, parce que je l'ai rencontré souvent, Pierre Vesperini le soulignait, je veux le relever, l'idée que c'est aussi, dans la pratique même de l'enquête, qu'on peut être amené à travailler aussi sur un mode un peu différent à cette construction d'objets, à travers ces faits qui parlent parfois, quoi. Bon, hein, ces faits qui veulent bien parler parfois, et qui parlent, j'en retiendrai au moins ça, ces faits qui parlent à supposer qu'on les laisse parler, c'est-à-dire qu'à supposer qu'on laisse l'empirie interpeller ses préconstructions d'objets à soi, quoi, au fond. Et alors, je pense, j'insistais beaucoup, j'ai fait un cours pendant longtemps là-dessus, j'insistais beaucoup sur l'aspect joyeux d'être contredit, voilà, de voir l'enquête contredire ce qu'on fait, parce que je crois c'est pas une déconvenue, quoi, par rapport à, vous voyez, la caricature ordinaire de la démarche hypothético-déductive, quoi, où on va se débrouiller pour que ces hypothèses soient confirmées, mais enfin, non, quoi, je pense que c'est exactement le contraire, quoi. Ce qui est joyeux dans la démarche hypothético-déductive, c'est de voir ces hypothèses contredites, quoi. On doit être très content quand ces hypothèses sont contredites, parce que ça s'appelle exactement ça, une découverte. Quand on veut faire de la science, faire une découverte, ben c'est bien, on est content qu'on a fait une découverte, c'est que, voilà, ce qu'on croyait vrai s'avère faux. Et donc je retiendrai ça, quoi, de cette remarque qui me semble elle aussi importante. Voilà. J'ai presque terminé. J'en viens au cinquième et dernier point qui sera peut-être le plus personnel, parce que c'est pas une chose, c'est pas que ce soit bouleversant, hein, mais c'est simplement qu'on en a peu parlé, mais qui me semble peut-être important. C'est qu'au fond, cette opération, ces modalités différentes d'opération de la construction d'objets suppose, je l'avais dit, je crois, bon, rapidement, suppose l'existence d'un cadre théorique de référence. Alors ça me semble être une chose importante, quoi. C'est-à-dire que comment construire scientifiquement un objet avec des concepts si on n'a pas un cadre conceptuel? Il faut bien en avoir un. Bon, alors, c'est banal de dire ça, mais la question se pose alors immédiatement, et ça on l'a évoqué, de comment nommer ce cadre conceptuel. C'est quoi ce cadre conceptuel? Au fait, les gars, on l'appelle comment? Bon, alors, c'est la question. La sociologie de Bourdieu, bon, on a évoqué cette question. Ah, c'est embêtant, quoi. On a l'air de s'affilier à un maître, se placer dans la position de disciple, machin, etc., quoi. Et puis bon, c'est la spécifier, c'est la rendre particulière, quoi. Bon. Alors, l'alternative, c'est quoi? C'est dire, ah ben non, on va se référer à la sociologie. Ni plus ni moins. C'est un peu ce que fait Bourdieu, d'ailleurs. Hein. Lui, voilà, il prend Marx, Weber, Durkheim, et en avance, je refonde tout, ça s'appelle la sociologie. Je pense qu'il a raison. Voilà, je vais vous dire mon point de vue, je pense qu'il a raison. Il a contribué à refonder, d'une certaine façon, la sociologie, en la concevant comme une science cumulative, capable de progresser en laissant tomber des choses, en en gardant d'autres, mais en avançant. Voilà, c'est un point de vue qui est résolument, donc je sais bien, enfin, un peu provocateur, hein, impérialiste, un peu grandiloquent peut-être, mais j'ai tendance moi à l'assumer. Alors je vais dire pourquoi. Mais on peut dire, bien sûr, il y a la pluralité théorique. Ah oui, je sais bien qu'il y a la pluralité théorique, je sais bien que nous ne sommes pas tout seuls. Oui, mais qui sont, voilà, j'aimerais que, voilà, me permettre de poser ces questions. Qui sont les prétendants sérieux? Voilà. Qui sont les prétendants sérieux en matière de cadre conceptuel sociologique qui puissent, invalider, en quelque sorte, ou relativiser, en tout cas, celui que, collectivement ici, nous pratiquons? Moi, je ne vois pas. Bon. Voilà. Alors, peut-être c'est un effet de mon ignorance. Peut-être je connais pas assez bien Boudon. Peut-être je connais pas assez bien les pragmatistes. Bon. Mais je connais un peu quand même. Bon. Et mon sentiment, mais là, ça supposerait, ça supposerait une démarche qui n'existe guère dans notre petit monde tel que je le pratique depuis bien longtemps, qui est des controverses théoriques chez les sociologues. Ça n'existe pas. Il n'y a pas de controverses théoriques chez les sociologues. On travaille chacun dans son coin. On ignore ce qu'on veut ignorer. Et puis, vogue la galère, quoi. Bon. Je crois que ça vaudrait peut-être le coup. Voilà. Peut-être ça vaudrait le coup d'entreprendre une critique méthodique des théories, puisqu'il paraît-il y en a, donc voyons voir, qu'est-ce qu'elles sont capables de faire, qu'est-ce qu'elles ont à proposer, sont-elles des rivaux concurrents, des concurrents sérieux, ou bien ne le sont-elles pas vraiment, ne sont-elles laissées là que comme une espèce de bonne volonté démocratique, bah oui, il faut plutôt le monde avoir d'exister, bon, etc. Ce qui est pas très scientifique quand même. Bon, voilà, pour une démarche scientifique, elle dit pas la science est relative, la science c'est la science ou c'est pas la science, quoi. Bon, en tout cas, c'est la vision que moi j'en ai. Et j'ai tendance à croire que on a bien quelque chose comme ça. Alors voilà, juste un mot pour finir sur ce point. C'est qu'au fond, si ce que j'ai dit est pas faux, je crois que ça ne l'est pas par rapport à ce thème de la construction d'objets comme une démarche relativement formalisable et transposable à différents types d'objets, alors on montre quoi? Ces journées sur la conduction montrent quoi? Elles montrent le caractère transférable de chaînes d'interprétation, de démarches, de types de démarches, etc., qui, d'une certaine façon, contribuent à leur manière à un progrès. Je ne peux pas dire comment appeler ça autrement, un progrès de la sociologie qui, dans cette perspective-là, montre encore une fois qu'elle est capable d'être cumulative. Être cumulative, ça fait partie des propriétés essentielles d'une science. Voilà, je vous remercie de votre attention.